Vous écoutez
RMC.
For the first time, Novak Djokovic is a Grand Slam champion. After a magnificent final against a gallant opponent.
En ce mois de juillet et de janvier, plutôt 2008, après bien des années de disette, la France du tennis se met doucement à rêver. Depuis quelques mois, une nouvelle génération est en train de prendre ses marques. Un petit groupe dans lequel on trouve le spectaculaire Gaël Monfils, le stratège Gilles Simon ou encore Richard Gasquet, le petit génie de la bande. En revanche, on connaît moins Joe Wilfried Tsonga. Si celui-ci a brillé chez les jeunes, les blessures à répétition l'ont empêché depuis de démontrer tout son potentiel. Pourtant, c'est lui qui, en ce début janvier, va marquer les esprits, réalisant un parcours incroyable à Melbourne. Tour à tour, Murray, Gasquet puis Yuzny vont tomber sous les coups de boutoir de Joe, le boxeur des cours que l'Australie compare déjà à Mohamed Ali. Mais en demi-finale, c'est un adversaire d'un autre calibre qui l'attend. À 21 ans, Rafael Nadal est déjà numéro 2 mondial et compte 3 succès à Roland-Garros. Pourtant, en entrant sur le court, Rafa semble nerveux. Son adversaire français s'en est rendu compte.
Didier, je vois que déjà il est dans l'appréhension. Ça a commencé dans le vestiaire. Je sentais que il me regardait, il faisait son échauffement, mais il regardait ce que je faisais. Et moi, j'étais hyper tranquille en me disant, de toute façon, pour moi, il a le même âge que moi, deux bras, deux jambes, et j'étais persuadé que je pouvais aller le battre.
Et la nervosité d'avant-match de Rafa se confirme dans le jeu. Il est balayé en 3-7 par Tsonga au sommet de son art.
Raphaël Nadal est tombé sur plus fort que lui ce matin. Tsonga, 38e joueur au classement, a joué comme un numéro 1 et réussi l'exploit d'écœurer l'Espagnol. Nadal n'avait encore jamais perdu une demi-finale d'un tournoi majeur. L'Espagnol est battu en férocité, submergé par les 49 coups gagnants d'un adversaire qui marche sur l'eau. En moins de 2h et 3-7, Tsonga plie l'affaire d'un 17e ace.
Quand je regarde le match, je dis « mais c'est quoi, ça sort d'où ce truc ?»
Si l'Australie est sous le charme, la France, elle, retient son souffle. Un quart de siècle après Noah, un Français va-t-il enfin triompher en Grand Chelem? On ose à peine y croire. Pour cela, il va falloir réaliser un nouvel exploit face à un autre joueur âgé d'à peine 20 ans qui, comme Djoko, n'a encore jamais remporté le moindre Grand Chelem. Son nom, Novak Djokovic. Ce 27 janvier, si les affaires du Français débutent à merveille avec le gain du premier set, les choses vont ensuite se gâter dans les trois manches suivantes. Djoko déroule, il est injouable, le rêve de Joe s'envole.
Dernier vainqueur français en Grand Chelem, Yannick Noah n'a ce soir toujours pas de successeur. La faute à Novak Djokovic, 20 ans seulement, mais déjà si grand. C'est le premier titre du Grand Chelem pour le Serbe. À l'ombre du triomphe de Djokovic, Joe Wilfried Tsonga savoure son nouveau statut, une star aînée en Australie.
Si durant les 14 années qui suivront, Joe enrichira son palmarès de multiples trophées, mais il ne retrouvera l'état de grâce de ce mois de janvier 2008. Au moment d'entrer sur le central australien ce soir-là, Novak et Joe étaient à égalité, 0-0 en grand chelem. Depuis, les choses ont bien changé, vous le savez. Si Joe est resté fanny, le Serbe, lui, en est désormais à 24. Et ce n'est peut-être pas encore fini. Bon, déjà, la première chose, c'est que je préfère laisser ça à Christophe Stessieux. Et la deuxième, c'est que c'était il y a 17 ans. Rendez-vous compte, les GG, 17 ans qu'il n'y a pas eu un Français. Je ne parle pas de Française, évidemment. Nous avons Mario Bartoli dans cette émission.
Bien, précise,
mais un Français en finale d'un grand chelem. Est-ce que pour vous, c'est pour bientôt? Est-ce que vous sentez l'affaire? Sarah, tu peux répondre et donner tes arguments maintenant.
Bientôt. Ouais. C'est quoi le laps de temps?
Je sais pas, tu le mets quand tu veux, le curseur.
Je pense que c'est pas pour bientôt. Je pense que c'est pas pour bientôt. On a d'excellents joueurs. On a effectivement Arthur Fils. On a Giovanni Mbeci Perricard. On a Hugo Humbert.
On a une belle génération quand même.
On a une belle génération. Une génération qui peut tendre à ressembler à celle dont Joe Wilfried Tsonga a fait partie. C'est-à-dire ces joueurs qui peuvent jouer des deuxièmes semaines de Grand Chelem, peut-être aller titiller les meilleurs joueurs du monde. Mais je crains que le titre d'un tournoi du Grand Chelem, ça se joue. Enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Le sommet de la pyramide est tellement difficile à atteindre.
C'est impronosticable.
C'est impronosticable et pour l'instant.
Donc pourquoi pas?
Du coup, si c'est un pronostic oui. et qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte,
oui,
pourquoi pas?
On pourrait le voir comme ça, t'as raison. Il y a tellement de facteurs que c'est impronosticable. Cependant, quand tu vois ce qui est en train de se passer à l'Open d'Australie, c'est que même un joueur qui arrive en finale, qui en perd deux, comme Sacha Zverev, et la difficulté d'aller le gagner, rend la chose... Qui me semble très compliqué à avoir pour un joueur français aujourd'hui.
D'ailleurs, on est dans le tie-break du deuxième set. Eric Salio, on le retrouvera dans quelques instants. De partout dans ce tie-break. Et c'est évidemment un moment très important de cette finale de l'Open d'Australie. Marion, est-ce que c'est pour bientôt? Je demande de jouer les Madame Irma.
Non, mais je tends à aller effectivement sur l'argumentaire de Sarah pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a aujourd'hui deux joueurs qui se sont partagés les 4 tournois du Grand Chelem l'année dernière, qui sont Sinner et Alcaraz, qui ont mis le curseur tellement haut, mais tellement haut, c'est-à-dire qu'il faut un Novak Djokovic complètement dans ses sommets, dans ses meilleurs jours pour aller les battre ou les défier. Et je ne vois pas pour l'instant Arthur, Giovanni, Hugo être dans ces niveaux-là. Ça n'empêche pas qu'ils pourront éventuellement les atteindre s'ils continuent à travailler, parce qu'ils travaillent bien et qu'ils sont disciplinés, qu'ils font les bonnes choses. Donc ils peuvent arriver à atteindre ce niveau, mais dans l'immédiat actuellement, je les vois pas pour l'instant être effectivement dans ces sphères-là. Hugo Humbert a affronté sa Zverev à l'Open d'Australie, on a vu le résultat. Et Zverev n'a pour l'instant pas gagné de tournoi du Grand Chelem, alors que j'ai énuméré Céline de Palmarès tout à l'heure. C'est quand même quelqu'un qui a été capable de battre les plus grands joueurs dans des moments extrêmement importants.
Et donc c'est la concurrence qui les empêchera, Marion. C'est la concurrence qui va les empêcher, oui. Ou c'est leur qualité intrinsèque.
La concurrence.
Les deux, mais surtout la concurrence, ouais. Parce que la concurrence est féroce.
Et tellement.
Aujourd'hui, il y a un jeune Américain qui a 19 ans qui s'appelle Tien, qui a battu Medvedev à l'Open d'Australie, qui va pour moi devenir aussi un grand joueur. T'as des Shelton qui sont derrière et qui poussent, qui sont entre les deux, entre 10 et 20. Et que c'est tellement dur. Parce qu'en fait, si tu veux gagner un grand chelem, il faut aller jouer 3 voire 4 gros matchs de manière consécutive. Et que cet enchaînement-là, il est très difficile à aller chercher. C'était la quête de ma vie. J'y suis arrivée qu'une seule fois parce que Serena en a gagné 23 et parce que d'autres ont monopolisé les premières places. Et qu'actuellement, je crois que dans les prochaines années, une fois que Novak a arrêté, Sinner et Alcaraz vont truster les titres du Grand Chelem,
oui,
c'est partagé, et que ça va laisser très peu de place, voire quasiment des miettes aux autres. Alors j'espère que quand ils auront une chance, ils seront capables d'aller la chercher. Mais là où Joe, et j'en discute très souvent avec lui parce qu'on a la chance de travailler ensemble sur Roland-Garros et on reparle souvent de ces moments-là, c'est qu'en fait il t'en laisse tellement peu de chance que c'est très difficile d'être prêt le jour où tu as ta seule chance. C'est ça qui est...
Mais vous êtes les deux exemples qui montrent que vous n'étiez pas attendu au début du tournoi. Toi, en 2013, à Wimbledon, tu partais pas favori.
Mais j'avais déjà fait finale. Ouais, mais j'avais déjà fait finale.
Bien sûr. Et Joe, pour le coup, c'était encore plus une surprise, Joe. En 2008,
oui,
enfin, il arrive
en fait,
de nulle part.
Si tu veux, moi, j'y suis allée, enfin, pour ma part, pour mon exemple personnel, je suis allée par palier. C'est-à-dire, j'ai fait quart, j'ai fait demi, j'ai fait finale, et ensuite, je l'ai gagné. Et en fait, ce genre d'exploits sont déjà très difficiles à réaliser. Un quart ou une demi de grand chelem actuellement dans le tableau masculin, au vu de la concurrence colossale qu'il y a, c'est déjà très difficile à réaliser. Et on parle même pas d'aller soulever la coupe. Moi, je leur souhaite de tout mon cœur parce que c'est un moment exceptionnel à vivre. Mais je pense qu'il y a encore, effectivement, des années de travail effectuées.
Fred et Pascal, pardonnez-moi, je vais vous couper la chic, mais on va revenir au direct parce que c'est extrêmement important entre Sinner et Zverev avec ce tie-break du deuxième set. Et pour l'instant, c'est l'Italien qui est devant, Eric Salio.
4 partout désormais, j'y sais, j'ai un petit peu d'avance sur toi, service gagnant de Sacha Zverev. Et pour revenir sur votre débat, il faudrait déjà atteindre les quarts de finale en chelem.
Mais Joe, c'est un contre-exemple en 2008.
Mais ça fait 12. Non, mais on parle de la génération actuelle. Fait 12 majeurs consécutifs où on n'a pas un Français en quart de finale. Donc, on ne va pas s'exciter. Pour l'instant, on est un peu moins
du
compte.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut l'aller par pavier.
Absolument. On revient au direct parce que là, c'est très très chaud. Zverev a peut-être une chance de revenir à oh là là, oh, c'est pas possible. Sinner a la chance du débutant puisqu'il prend la bande sur un coup droit totalement anodin et ça lui permet de mener 5 points à 4. Ah là, c'est un coup du sort terrible pour Sacha Zverev. Il n'en revient pas, il jette des regards vers son clan en disant mais pourquoi pourquoi j'ai pas de chance. C'est vrai que là-dessus, il n'est pas verni. C'était un coup droit, voilà, qui a pris la bande et c'est un point gagnant derrière pour Sinner. Donc 5-4-6-2 qui va servir à deux reprises.
Et oui, qui va servir à deux reprises et qui va donc pouvoir peut-être remporter ce deuxième set. Il est 11h43. Vous écoutez RMC, les grandes gueules du sport dans quelques instants. Le débat caché. Vous allez vous régaler, les GG. Je vous ai préparé un truc sympa. Mais on va rester avec toi, évidemment, Eric Salio, pour terminer ce tie-break du deuxième set.
5-4, donc pour Yannick Sinner dans ce tie-break du deuxième, il est au service. Donc côté gauche, on est bientôt à 2 heures de jeu et service gagnant. Service gagnant et là, Zverev, il devient fou. Il devient fou parce qu'il repense forcément au point d'avant. Donc 2 balles de 7 pour Yannick Sinner, 2 balles pour se détacher. 2 manches à 0 dans cette finale qui s'est vraiment rééquilibrée. Alors j'en ai pas parlé, mais tout à l'heure, il y a Sinner qui s'est tenu le derrière de la cuisse. Est-ce qu'il a eu une petite pointe? Je sais pas. Mais en tout cas, bon, ça n'a pas eu d'incidence sur son jeu. Il est toujours aussi convaincant sur le central de Melbourne, la Rod Laver Arena, 6-4. Donc 2 balles de 7 pour Yannick Sinner. La première sur son service, très concentré l'Italien. Il va évidemment essayer de passer sa première balle. Elle est dedans. Le retour est un peu faiblard de la part de Yannick Sinner, de Zverev. Et derrière, il aligne un coup droit gagnant qui mordit la ligne. Totale réussite pour Yannick Sinner qui se détache 2-7-0, 6-3-7-6.
Et voilà, est-ce qu'on aura droit à un marathon ou une victoire en 3-7 pour Sinner? Oui, c'est cruel, Mario, ça c'est clair. Et on sent qu'il est extrêmement frustré, Sacha Zverev, par ce tie-break et notamment ce point avec cette bande du filet.
Oh là là! Doucement, Sacha, doucement, ça sert à rien. Doucement.
Ah, si, ça sert. Mais, oui. Si, ça peut servir.
Voilà ce que l'on peut dire à Zverev. Il a perdu 2 finales en menant 2-7-0 et en perdant en 5-7. Donc, peut-être que ça arrivera aujourd'hui pour lui.
On c'est tout le mal. Il est emmené 2-7-0.
Voilà. Oui. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, en tout cas.
Ça paraît un peu compliqué. Là.
On va faire un point aussi à Kitzbühel avec la première manche du slalom. Où en est-on des Français? Ça y est, c'est terminé. Il y en aura combien, Léna Marjac, lors de la deuxième manche cet après-midi?
Eh bien, on en aura 5 sur les 7 qui étaient engagés aujourd'hui dans ce slalom de Kitzbühel. Ça passe pour Steven Amier qui termine 2e de cette première manche, juste derrière le Norvégien Timon Hogan. Clément Noël, 4e. Tous les deux vont clairement aller jouer le podium, voire la victoire. Pourquoi pas une 14e victoire en carrière pour Clément Noël et pourquoi pas la première, voire le premier podium pour Steven Amier aujourd'hui. Ça passe également pour Paco Rassa, 12e. Pour Hugo Desgrippes, très belle performance d'Hugo Desgrippes parce qu'avec son dossard 57, il est allé chercher la 23e place de cette première manche. Et enfin, on retrouvera le plus âgé de cette équipe de France, Victor Muffat-Jandé, pardon, qui est allé chercher donc la 26e place. Rendez-vous à 13h30. On aura donc 5 Français en deuxième manche de ce slalom ici à Kitzbühel.